France Culture.
De Ronald Reagan à Donald Trump, de 1967 à 2017, la notion de welfare state revient à 50 ans d'écart dans la bouche de dirigeants républicains des États-Unis, mais toujours avec la même idée en tête, celle d'un dispositif qui pèserait trop lourd sur les finances américaines et donc sur les citoyens, et plus fondamentalement celle d'un rôle dévoyé de l'État fédéral, le welfare state qui n'a que peu, voire rien à voir avec l'État-providence que nous connaissons ici en France, est ainsi l'objet de décennies de controverses depuis ce qui est considéré comme sa date de naissance en 1935, lorsqu'est institué le Social Security Act, jusqu'à l'année de sa mort présumée en 1996, lorsqu'est mis en place le Welfare Reform Act de Bill Clinton. Mais c'est un système dont l'agonie se poursuit encore aujourd'hui, et de fait, Donald Trump a déjà marqué son deuxième mandat par une offensive particulièrement virulente vis-à-vis des programmes sociaux menés et financés par l'État fédéral, au nom notamment de l'efficience et tout le rôle du DOGE, le Department of Government Efficiency, d'Elon Musk. L'aide sociale américaine mélange de logique publique qui laisse une grande part au privé et pourtant au cœur des préoccupations d'une population qui s'appauvrit et n'a plus les moyens de faire face à ses dépenses. En 2022, le taux de pauvreté atteignait 12,4% de la population contre 7,6% l'année précédente. Une colère qui s'exprime parfois dans la violence. C'est ce qui est arrivé le 4 décembre dernier lorsqu'un jeune homme de 26 ans, Luigi Mangione, avait abattu Brian Thompson, le patron de United Healthcare en pleine rue et qui est devenu depuis le symbole d'un système de santé largement défaillant. Retour donc sur les origines d'une telle défiance, mais aussi de la défense d'un État social qui peine à prouver sa légitimité. Welfare State, quand les États-Unis défient la providence, c'est le sujet de cette émission programmée et préparée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Élise Le. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Tamara Boussac, maîtresse de conférence en études nord-américaines à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
On vous doit un ouvrage, l'affaire de Newburgh aux origines du nouveau conservatisme américain, paru aux presses de Sciences Po en 2023. Également avec nous, à distance depuis les studios d'ici Héros, Laurent Roche, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine des États-Unis à l'université d'Avignon. Les États-Unis de l'État-providence à l'État pénal, c'est le titre de votre ouvrage. Ouvrage paru aux éditions Le Bord de l'eau en 2013. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et j'en profite pour remercier Salomé Claras qui assure le duplex donc depuis Montpellier où vous vous trouvez, Laurent Roche. Alors Tamara Boussac, on l'a dit, hein, le discours politique à l'encontre de ce fameux welfare state, et je mets là des guillemets avec mes doigts, est à la fois virulent et surtout très prégnant depuis au moins une cinquantaine d'années. Nous allons y revenir. Mais est-il seulement possible de savoir ce qui est critiqué là? À quoi correspond ce welfare state américain?
Alors oui, en fait ce qui est assez intéressant, et on l'entend quand on, voilà, dans les clips de Trump et de Reagan que vous avez passé. C'est-à-dire que welfare state, c'est pas exactement la même chose que welfare dans le langage américain. En fait, l'expression de welfare state, elle est très peu usitée aux États-Unis. C'est pas vraiment quelque chose qui pénètre le discours politique ou commun. C'est une catégorie qui va être utilisée par les historiens, les sociologues qui s'intéressent à l'histoire des politiques sociales et qui de manière analytique vont utiliser cette expression de welfare state. Mais welfare, alors ça c'est le terme qu'on entend et qui est employé par Trump et Reagan en l'occurrence. Et c'est vrai que welfare, ce qui est un terme péjoratif depuis les années 1960, c'est un terme qui est utilisé pour désigner les programmes d'assistance, c'est-à-dire vraiment les minima sociaux à destination des personnes les plus démunies aux États-Unis. Alors effectivement, c'est des programmes qui sont sous-financés, qui sont vraiment soumis à des mesures de conditionnalité qui sont très fortes. Mais c'est vrai que quand on parle de welfare state, c'est un paysage très différent de ce qu'on peut connaître en France ou en Europe aussi. Donc on aura l'occasion d'en parler, mais notamment tout ce qui concerne la santé, la sécurité sociale. En France, c'est vraiment un pilier très important de l'État-providence tel qu'on le connaît. C'est quelque chose qui est complètement absent de l'État social américain.
Laurent Roche, il faut insister sur cette idée, l'État-providence a effectivement une connotation très forte ici en France où c'est associé à des années de lutte notamment et puis à la construction de l'État social après la Seconde Guerre mondiale. C'est lié à une très forte intervention de l'État aussi en matière sociale. Est-ce le cas aux États-Unis? Il ne faut pas confondre les deux acceptions, on vient de l'entendre avec Tamara Boussac. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il n'y a absolument rien du tout à voir entre les deux acceptions, on va dire, des deux côtés de l'Atlantique?
Alors, il y a pas grand-chose à voir. On peut pas dire qu'il n'y ait rien à voir. D'ailleurs, le système américain précède beaucoup de systèmes européens, puisque c'est avant la Deuxième Guerre mondiale que Roosevelt va mettre en place les premiers jalons de cet État-providence. Moi, j'utilise État-providence pour les États-Unis avec des guillemets. L'État-providence aux États-Unis se distingue des modèles européens par sa fragmentation, d'une part, son rôle limité, son ancrage dans des principes libéraux et individualistes qui fondent, en fait, la culture américaine depuis ses débuts. Contrairement aux pays scandinaves ou à la France ou à d'autres pays européens où l'État joue un rôle central dans la protection sociale, le système américain repose sur un mélange de programmes publics, d'initiatives privées et d'une forte décentralisation, ce qu'on appelle le fédéralisme. C'est absolument essentiel pour comprendre le système américain dans d'autres secteurs d'ailleurs. Et donc cette spécificité s'explique par des facteurs historiques, culturels, mais aussi politiques.
Laurent Roche, on comprend qu'il y a notamment cette distinction très forte à faire entre ce que gère l'État central en tant qu'État, que state, et puis ce que gèrent à leur échelle beaucoup plus locale tous les États qui composent effectivement les États-Unis. Si on en reste tout de même au niveau fédéral, quels secrétariats d'État correspondent aujourd'hui, c'est pour avoir une idée un peu concrète quand même de la façon dont ça s'organise, aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait correspondre à la gestion de ce fameux welfare dont on parle depuis le début de l'émission? Est-ce que c'est celui dédié à la santé et aux services sociaux, à l'éducation? Est-ce que ce sont là des organismes, des entités qui sont tout de même chargés d'avoir un semblant de politique sociale?
Oui. Alors actuellement, le secrétariat qui s'occupe, donc le ministère au sens français qui s'occupe de ces questions, c'est the Secretary of Health and Human Services en anglais, donc de santé et services humains, on va dire. Et donc ça a changé en 1979 avec la création du ministère de l'Éducation, qui est en train d'être démantelé d'ailleurs par l'administration Trump. Auparavant, avant 79, c'était le ministère de la santé, de l'éducation et du welfare. On utilisait le mot welfare en anglais, Secretary of Health and Education and Welfare, et ça a été modifié donc depuis. Et actuellement, donc, la santé et les services à la personne ou les services humains, c'est dirigé par Robert F. Kennedy Jr. depuis février de cette année, qui a beaucoup fait parler de lui. Je ne vais pas m'épancher sur cette personnalité, mais c'est lui qui est à la tête donc, des services sociaux américains au niveau fédéral.
Et c'est Linda McMahon qui est à la tête de celui de l'éducation pour l'instant, puisque vous l'avez dit, Laurent Roche, ce secrétariat, ce ministre là est assez menacée en ce moment. Il y a une autre précision que je voulais faire avec vous, Tamara Boussac, et pour bien comprendre aussi la façon dont ce débat s'ancre, et on va le voir sur un temps très long aux États-Unis. On a passé des extraits en tout début d'émission de présidents républicains. Est-ce que c'est une ligne de démarcation très forte? Est-ce qu'on pourrait dire très grossièrement que être pour le welfare state, dans son acception relativement floue, mais être pour, ça correspond à être de gauche, et les gens de droite sont contre? Est-ce qu'on peut résumer les choses ainsi aux États-Unis? Est-ce que la ligne de fracture est aussi claire que cela?
Alors, c'est un peu schématique. C'est probablement de plus en plus vrai, de fait. Hein, je pense que c'est un marqueur extrêmement fort. Historiquement, c'est beaucoup moins vrai, en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai essayé de montrer ça dans mon livre. Et en fait, il y a beaucoup d'historiens qui le montrent aussi, enfin, qui essayent d'écrire une histoire sociale et politique au-delà du clivage démocrate contre républicain. Et en fait, alors, je pense qu'on va en parler, mais à partir des années 1960-1970, quand il y a un vrai consensus politique qui traverse la classe politique américaine autour du fait que les politiques sociales, les programmes sociaux posent problème. Ils posent problème parce qu'il y aurait trop de fraude, parce qu'ils coûtent trop cher, parce qu'il y aurait trop de bénéficiaires et parce que le système serait un peu devenu hors de contrôle. Et il y a une expression à partir des années 60 qui est très largement utilisée par des démocrates comme par des républicains, qui est l'idée du welfare mess, donc vraiment du désordre de l'assistance sociale, du désordre qui régnerait au sein des politiques sociales. Donc en fait, non, c'est pas juste une histoire de républicains contre démocrates. Et d'ailleurs, l'une des grandes lois qui a démantelé en partie l'État sociale créée en 1935, c'est une loi qui a été co-créée et co-adoptée par l'administration Clinton et le Congrès républicain en 1996. Donc il y a quand même une histoire bipartisane vraiment à avoir en tête, et c'est pas juste une histoire de clivage de clivage partisan.
Et je vous pose la question, Tamara Boussac, aussi parce qu'il y a de toute façon, et ça sera le cas pendant toute l'émission, mais on a de toute façon ce réflexe de comparer avec ce qui se passe en France, mais effectivement la réalité est un peu plus nuancée que ça, et c'est notamment ce qu'on a vu pendant la dernière campagne présidentielle, quand Kamala Harris a mis sur la table des propositions qui allaient vers un renforcement effectivement de certains programmes sociaux, notamment un effacement de la dette médicale, des soutiens pour accéder à la propriété, des crédits d'impôt pour chaque nouveau-né, enfin tout un tas de mesures. au sein même de son propre camp, c'est pas tout à fait passé. Elle avait déjà été un peu taxée de radicale, ou en tout cas se rapprochant de Bernie Sanders, qui incarne une forme d'extrême gauche, mais là encore, faut faire attention avec les mots, mais une sorte d'extrême gauche à l'américaine. Ça reste des mesures compliquées à faire passer. C'est des mesures qui, dans un imaginaire collectif américain, ne vont jamais de soi, en fait, Tamara Bousset.
Non, effectivement, elles ne vont jamais de soi. Après, c'est vrai qu'on est dans un contexte aujourd'hui, quand même, post-crise de 2008, où, enfin, voilà, où il y a beaucoup d'Américains qui sont dans une situation sociale et économique qui sont très compliquées, malgré les bons chiffres du chômage, par exemple, et les bons indicateurs économiques qui peuvent exister aux États-Unis. C'est vrai que, voilà, il faut se rappeler qu'à partir de 2008-2009, il y a des millions d'Américains qui perdent leur maison, qui perdent leur emploi. L'idée, effectivement, et bah, c'est là que trouve en grande partie le projet d'Obamacare, hein, donc de réforme de l'assurance santé du président Obama à cette époque-là. C'est vrai que même avant Kamala Harris, Biden aussi hein, a mis en place des crédits d'impôt, par exemple, pour les familles avec enfants à charge. La proposition aussi, enfin voilà, et le projet d'effacer les dettes étudiantes aussi, hein, pour soulager la jeunesse d'une forme de précarité également. Donc il y a quand même effectivement l'idée que, au sein du Parti démocrate, qu'il faut quand même un minimum de protection sociale. Alors effectivement, ça peut prendre plusieurs formes. Vous parliez de Bernie Sanders, effectivement, qui incarne plutôt une aile gauche. Lui, voilà, qui serait pour des propositions, notamment sur le système de santé, qui se rapprocherait plus du système de sécurité sociale tel qu'on connaît en France. Effectivement, c'est pas quelque chose qui a forcément pignon sur rue. Et effectivement, ce sont des sujets qui sont extrêmement débattus.
Et l'idée d'une universalité, puis d'une gratuité absolue, reste quand même relativement éloignée. Il y a une autre ligne de clivage, autre que politique, on l'a déjà exprimée avec vous, Laurent Roche, c'est effectivement cette notion de partage aussi de la responsabilité, mais aussi des finances entre l'État fédéral et les États qui constituent les États-Unis. Je voudrais vous faire écouter à cet égard l'extrait d'un discours prononcé le 25 octobre 1967 par Ronald Reagan, qui est alors gouverneur de la Californie. Alors, on va revenir évidemment sur ce contexte du début, enfin de la fin des années 60 qui est très spécifique, mais là, je voudrais vraiment juste vous faire entendre cet extrait pour illustrer vraiment cette forte opposition finalement entre les États et l'État fédéral.
Prenons l'exemple d'une affaire qui s'est déroulée à Joliet, dans l'Illinois, et qui est d'ailleurs toujours en cours. Un célibataire, un citoyen qui nous est venu d'un autre pays, se sentant patriote, a laissé à sa mort une fortune d'environ $170,000 au gouvernement fédéral, avec la volonté explicite qu'elle soit utilisée pour aider à payer les dettes de l'État. Le tribunal des successions de l'Illinois a consciencieusement déposé le testament et a accordé au gouvernement de l'Illinois des droits de succession d'un montant de $27,000. Le gouvernement fédéral s'est opposé à cette affaire. Et vous n'avez pas encore entendu la vraie raison. Il s'oppose à l'affaire et la base de sa revendication, et je ne vous mens pas, est que le gouvernement fédéral est une institution caritative. Et laissez-moi vous dire qu'ils ont un bon dossier. 42 millions d'Américains reçoivent aujourd'hui régulièrement des chèques de la part du gouvernement fédéral, soit directement, soit par l'intermédiaire des États dans le cadre de programmes d'aide financés en grande partie par des fonds fédéraux. En 1964, il existait 239 programmes d'aide sociale. L'année dernière, ils étaient 399. Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, ils sont plus de 450 et on n'en voit pas la fin. Le programme gouvernemental, une fois lancé, est ce qui se rapproche le plus de la vie éternelle sur cette terre.
Laurent Roche, on l'entendait dans cet extrait, l'idée d'un État associé à une institution de charité fait beaucoup rire la foule. Mais là, c'est ce qui est au fondement, finalement, de l'opposition, et notamment à toute notion d'État-providence telle qu'on la connaît en France. Au-delà du clivage politique, c'est aussi un clivage entre ceux qui estiment que l'État peut et doit beaucoup et ceux qui estiment qu'au contraire, c'est plutôt à l'individu de s'en sortir. En fait, c'est presque plus un clivage philosophique qui s'exprime ici.
Absolument. Donc Reagan est la personne qui va, après son élection à la présidence, hein, là on est en 67, hein, mais
il pose
déjà des jalons sur une future candidature à la présidence des États-Unis. Et c'est lui qui va mettre en place ce démantèlement du welfare state, vraiment au niveau fédéral. Et effectivement, il ne croyait pas du tout que le rôle de l'État était de protéger les citoyens, sauf d'armées extérieures, de risques extérieurs. Donc il va énormément, pendant sa présidence dans les années 80, mettre d'argent public dans la défense nationale au détriment de tous les programmes sociaux, de tout ce qui constitue le welfare state américain. Et du coup, il va utiliser pour convaincre ses interlocuteurs et pour convaincre le public, il va utiliser tout un tas de stéréotypes sur la bureaucratie fédérale, la bureaucratie de l'État fédéral. Il va beaucoup appuyer sur l'idée que les gens profitent du système, des personnes s'inventent, notamment ce qu'il va appeler des welfare queens, hein, c'est-à-dire des femmes noires qui perçoivent l'aide sociale et qui trichent en déclarant des enfants qu'elles n'ont pas, en déclarant des maris qu'elles n'ont pas, etc. Et donc, d'ailleurs, des journalistes à l'époque vont faire leur travail et vont lui dire, mais en fait, il n'y a aucune donnée qui permet de démontrer ce que vous êtes en train de dire sur les welfare queens. Et il va répondre tout simplement, quand on répète 4 fois la même chose, ça devient une vérité. Donc, il va faire des émules ensuite, bien après.
C'est ce que j'allais
avec
dire,
le président
oui.
actuel.
Ça, on retrouve effectivement des échos, et aussi des échos dans cette idée de gâchis, aussi de la façon dont est géré l'argent. Tamara Boussac, pour qu'on comprenne bien finalement la façon dont les choses sont organisées, qu'est-ce qui relève de la responsabilité de l'État? Quelle marge de manœuvre ont les États qui ont, on va dire, en quelque sorte, la main plus ou moins sur un budget, mais où se situe la ligne de partage, en fait? Comment sont réparties les choses?
Oui, alors... Là, ce que je vais expliquer, c'est notamment dans le contexte de 1967, pour qu'on comprenne aussi ce que Reagan est en train de dire. En fait, ne serait-ce que dans la jeunesse de l'État américain, il faut quand même se rappeler que tout part du local aux États-Unis. Et tout part notamment de l'échelle des États. Donc en fait, en 1935, quand effectivement l'État-providence est fédéral, est créé par Roosevelt, il s'inspire en grande partie de beaucoup de choses qui sont déjà pratiquées dans les États à ce moment-là. Ce qui change, en revanche, en 1935, c'est que l'État-providence créé par Roosevelt est fondé sur 2 volets. Un volet assurantiel. Donc typiquement, l'un des exemples les plus frappants de ce volet assurantiel, c'est le programme de retraite fédérale qui s'appelle Social Security. Donc c'est pas la sécurité sociale française, mais c'est l'expression qui est utilisée, qui effectivement fonctionne sur un système de cotisation. Et il y a un deuxième volet qui est un volet d'assistance et qui effectivement est assez fragmenté, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs allocations sous condition de ressources à destination de catégories spécifiques de la population. Donc par exemple, il va y avoir un programme d'allocation à destination des personnes aveugles, un programme à destination des femmes seules avec enfants à charge, et qui s'appelle Aid to Dependent Children, et qui est vraiment le programme qui va concentrer les critiques après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment pendant les années 60, et c'est à ça notamment que Reagan fait référence. Au niveau du financement, ce programme, Aid for Dependent Children, jusqu'à en fait son abolition en 1996, il est cofinancé par les États fédérés et par l'État fédéral. Mais en fait, ce sont les États, à cette époque-là, qui décident du montant de l'allocation. Donc par exemple, c'est-à-dire que par exemple, vous n'allez pas toucher la même allocation si vous êtes à New York ou si vous êtes dans le Mississippi ou si vous êtes dans l'Ohio par exemple. Donc les États décident du montant de l'allocation, payent pour 50% de ce montant et ensuite l'État fédéral couvre la moitié qui reste. C'était le principe qu'on appelait des matching funds, c'est-à-dire que ce que met l'État fédéré sur la table, l'État fédéral doit mettre la même chose également. Donc il y a vraiment une co-gestion, une co-administration et un co-financement des programmes par les États et l'État fédéral.
Et ça aujourd'hui, Tamara Boussac, il y en a encore des traces, c'est encore un mode de fonctionnement opérationnel?
Oui, et en fait d'autant plus depuis 1996, en réalité, l'État fédéral transfère complètement les fonds à l'échelle des États, aux administrations des États, qui en fait ensuite ont presque totale discrétion pour utiliser les fonds en question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fléchage, il n'y a pas vraiment de contrôle de l'État fédéral sur l'utilisation que va être faite de cet argent, donc au titre de ce nouveau programme qui existe depuis 1996, qui s'appelle Temporary Aid for Needy Families, qui est donc une allocation pour familles pauvres. Et en fait, voilà, les premiers gestionnaires, en fait, ce sont les administrations des États.
Ce qui est intéressant, Tamara Boussac, avec cette idée de l'absence de fléchage que vous venez d'évoquer, c'est qu'elle est reprise aussi dans le discours actuel, et notamment par Elon Musk. C'est ce qu'il dit quand il critique de façon beaucoup plus générale et moins ciblée le système qui est actuellement en place. Et c'est ce qu'il disait dans une interview donnée le 10 mars dernier.
Lorsque le gouvernement envoie de l'argent aux gens, que ce soit du gâchis ou de la fraude, personne ne se plaint de recevoir de l'argent. Mais les gens se plaignent lorsqu'ils n'en reçoivent pas. Ceux qui se plaignent le plus sont ceux qui reçoivent de l'argent par la fraude. Le gâchis et la fraude dans les dépenses sociales, sachant que les dépenses sociales représentent la majorité de la dépense fédérale, C'est le gros morceau à éliminer. Ça représente 500 milliards, voire 600 ou 700 milliards de dollars par an. Et c'est aussi le mécanisme par lequel les démocrates attirent et retiennent les immigrés, en leur donnant des aides sociales pour qu'ils viennent ici et en les transformant ensuite en électeurs. C'est pour ça que les démocrates sont si contrariés par cette situation. Si nous éteignons ce gigantesque aimant à argent, ils vont perdre des électeurs.
Laurent Rush, cette idée de gâchis, est-ce qu'elle est quelque part justifiée? Alors non pas tant en raison de la fraude, mais de la façon dont effectivement les aides sociales sont distribuées et contrôlées aux États-Unis. Est-ce que c'est effectivement un peu comme on a commencé à le dire avec Tamara Boussac, un système où à force d'avoir des intermédiaires et à force d'avoir des situations spécifiques à chaque État, finit par avoir des trous dans la raquette?
En fait, cette question de la fraude, de l'utilisation de la fraude comme argument, c'est essentiellement de la propagande.
Oui.
C'est essentiellement de la propagande, surtout du côté des présidents républicains qui se sont succédés. Reagan en était coutumier, Trump reprend cela aussi à son compte, mais aucune étude ne démontre qu'il y a plus de fraude dans le domaine du welfare. Alors forcément, la fraude, elle est partout, dans toute société, il y a toujours des gens qui trichent, hein, on est bien d'accord, mais il n'y a pas plus de fraude. D'ailleurs, même beaucoup d'études ont montré que ce qui coûtait plus cher à la société américaine, c'était la fraude en col blanc, les marchés financiers, les investisseurs qui trichent, etc. Donc voilà. Donc il n'y a pas plus de fraude aux États-Unis dans le domaine de l'aide sociale qu'ailleurs. Il n'y en a pas particulièrement. Ce n'est pas un problème majeur, on va dire.
Tamara Boussac, vous souhaitiez réagir?
Oui, parce qu'en fait, moi j'aurais envie de répondre oui à votre question, mais dans un sens extrêmement différent de ce que Musk entend dans ce qu'il est en train de dire. Effectivement, il y aurait des exemples d'inefficacité de gestion, mais qui ne sont pas nécessairement liés à la fraude. Alors effectivement, l'absence de fléchage, l'absence de contrôle que je mentionnais tout à l'heure, ça se traduit dans les faits par le fait que parfois les États localement vont utiliser ces fonds pour financer cette allocation TINF pour, par exemple, la rénovation d'un stade. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui semble assez incongru et qui, je pense, n'est pas du tout dans les radars des gens qui écoutent Musk. Un autre exemple, ce serait aussi de tout simplement le fait est qu'aujourd'hui, voilà, la conditionnalité à l'éligibilité des sociales repose beaucoup sur la question du travail. C'est-à-dire qu'il faut travailler en contrepartie des aides sociales parce que la philosophie des programmes aujourd'hui, enfin de beaucoup de programmes en tout cas, c'est de mener les pauvres vers l'emploi pour les rendre de moins en moins dépendants à l'aide sociale. C'est le vocabulaire qui est vraiment utilisé. Et donc, concrètement, au niveau de la gestion, dans beaucoup d'États, c'est là que va intervenir le secteur privé. Et donc, la gestion des programmes et la question du retour vers l'emploi va être gérée par des organismes privés qui vont fonctionner un peu comme des agences d'intérim et dont, en fait, l'objectif... qui vont toucher, en fait, une rémunération de la part de l'État sur fonds publics à partir du moment où un bénéficiaire d'un programme social va... à signer un contrat d'emploi. Et donc, en fait, eux, leur intérêt, enfin, il y a des études qui ont montré que l'intérêt de ces organismes privés, c'est pas forcément de trouver des emplois pérennes pour les personnes en question, mais c'est de multiplier les contrats courts, les missions très courtes d'intérim. Et en fait, ça va complètement à l'encontre de l'objectif de remettre les gens, de ramener les gens vers le marché de l'emploi. Donc ça, ce serait un exemple d'inefficacité, par exemple.
Et on pourrait se dire que le démantèlement de certaines agences, et notamment de contrôle, ne va pas on va dire, bénéficier à un contrôle accru de fait de la façon dont cet argent est dirigé et est fléché. Ce qu'on comprend quand même depuis le début de cette discussion, c'est que finalement, ce modèle, si tant est qu'il y en ait un, de welfare state est largement contesté. Pourtant, on l'a dit, il naît bien à un moment, en 1935, dans un contexte très particulier, qui est celui de l'après-Grande Dépression, de l'après-crise de 1929. Tamara Boussac, en 1935, quelle est la priorité? Qu'est-ce qui justifie, alors que c'est devenu très compliqué par la suite, qu'est-ce qui justifie que justement on met en place ces aides sociales-là? Quelle est la priorité?
C'est vraiment la catastrophe et l'urgence sociale et économique des années de Grande Dépression dans les années 1930. Hein, et c'est le New Deal, c'est vraiment la réponse de l'administration Roosevelt à la catastrophe économique sociale qu'a été la crise de 1929 et effectivement le contexte des années 1930. Donc la priorité, c'est vraiment de fournir un filet de sécurité sociale minimal pour les Américains. Donc ça va être le cas, voilà, avec la création de cette retraite
l'État fédéral, le programme Social Security, pour faire en sorte que les personnes âgées ne se retrouvent pas complètement démunies une fois que qu'elles quittent leur emploi. Après, ce qu'il faut quand même aussi rappeler, c'est qu'en 1935, il y a un certain nombre de programmes qui sont créés, notamment les programmes d'assistance que je mentionnais tout à l'heure, mais qui sont pensés à cette époque-là comme peut-être temporaires, en fait. C'est-à-dire que on crée des programmes pour répondre à la crise, mais qu'une fois que la prospérité sera revenue, il y en aura peut-être plus besoin, en fait. Et en réalité, c'est complètement l'inverse qui se produit après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc effectivement, hein, la Seconde Guerre mondiale, l'économie de guerre, en fait, instaure le retour de la croissance économique, de la prospérité aux États-Unis. Et en fait, tous ces programmes, à la fin de la guerre, ils ne disparaissent pas du tout. Ils sont en fait pérennes. Et non seulement ils sont pérennes, mais en plus, ils comptent de plus en plus de bénéficiaires. Et c'est notamment le cas donc, de ce programme qui s'appelle Aid to Dependent Children pour femmes, enfin pour parents, mais c'est en majorité des femmes, seules avec enfants à charge. Et c'est là que naissent les critiques, en fait. C'est dès l'après-guerre, en fait, à cause de l'augmentation des dépenses sociales au titre de ces programmes et à cause de l'augmentation des bénéficiaires et aussi des changements démographiques au sein de la population bénéficiaire, dans le sens où, ça c'est quelque chose qui est documenté dans les 5 ans statistiquement, sociologiquement, de plus en plus de femmes noires avec enfants à charge vont toucher le programme. Et donc, voilà, il y a un fond racial extrêmement important aussi. Donc tout ça pour dire que les critiques, oui, elles sont anciennes, elles datent de 1935, mais surtout de 1945.
Et en tout cas, on voit bien effectivement comment ça peut alimenter le discours à partir du moment où ces aides perdurent. On voit bien comment une idée d'accoutumance peut très vite apparaître sur le tapis. En 1950, United States Information Service avait produit une fiction intitulée « Avec ces mains-là » qui met en scène la vie d'Alexandre Bordy, ouvrier tailleur, et qui se remémore justement ses souvenirs de la Grande Dépression.
Le jour où j'eus besoin de soins médicaux, j'éprouvais une autre sorte de satisfaction. En regardant ce grand bâtiment tout en béton et en acier, je me rappelais le premier centre sanitaire du syndicat, le docteur surmené. Et je me disais, c'est quand même mieux qu'autrefois. Maintenant, on a une garantie contre la maladie. Les centres sanitaires se sont multipliés à travers toute l'Amérique, à Boston, à Philadelphie, à Saint-Louis. Je pense que seuls ceux qui ont connu les années 1909-1910 peuvent se rendre compte du chemin que nous avons parcouru. Il n'y a que nous qui en sachions le prix.
Laurent Roche, nous l'avons dit, la Grande Dépression a engendré comme réponse entre autres le New Deal et puis tout un ensemble de séries de mesures à caractère plus social mais qui restent très ciblées, on l'a compris, notamment vis-à-vis des populations plus âgées. Est-ce que au-delà des mesures engagées et de leurs conséquences, moi ce que j'aimerais vraiment savoir et pour comprendre ce rapport aussi à la fois des politiques mais aussi des citoyens américains à cette notion d'aide sociale de welfare state, est-ce que ce moment de 1935 et les quelques années qui suivent sont un moment aussi de prise de conscience, de légitimation aussi de l'utilité de l'aide sociale? C'est quelque chose qui est relativement bien accepté à ce moment-là par la population.
Oui, effectivement, la Grande Dépression va permettre aux États-Unis de justifier la création d'un système de pension, parce que Social Security Act de 35, c'est surtout la création d'un système de pension. Alors, des pensions qui sont pas très très généreuses, mais quand même, ça n'existait pas, ou dans quelques États, il y avait des États pilotes avant 1935 qui avaient essayé ça. En dehors de cela, c'était essentiellement la protection sociale était privée, c'est-à-dire que c'était très paternaliste. Des entreprises pouvaient fournir des prestations sociales à leurs employés, comme c'était le cas d'ailleurs en Europe, mais en 35, c'est surtout la création de ces pensions et la création de l'assurance chômage qui va et l'aide aux familles, comme on en a parlé tout à l'heure également, et FDC, mais c'est surtout l'assurance chômage. Et ensuite, on va avoir, alors le président Roosevelt va utiliser effectivement cette période pour le faire. Le deuxième grand moment dans l'histoire américaine de création du welfare state, c'est les années Lyndon Johnson. C'est très important. C'est vraiment pour moi la création de l'État providence aux États-Unis avec la création de Medicare. Medicare, c'est l'aide médicale pour les personnes de plus de 65 ans. Donc, il y a une couverture médicale depuis 1965 pour les plus de 65 ans. Et donc, ça, c'est une couverture quand même qui concerne tous les Américains de cet âge-là. Il y a Medicaid qui est pour les personnes qui touchent justement le welfare, hein, qui ont la couverture médicale. Medicaid, c'est aussi 1965. Et le programme Food Stamps, ce sont des bons alimentaires pour aider les familles qui sont dans le besoin à se nourrir à peu près correctement. Et ça, c'est Johnson. Nixon va aussi utiliser ce contexte des années 60 avec l'assassinat du président Kennedy pour faire avancer son programme de guerre contre la pauvreté. Il va faire pareil d'ailleurs pour les droits civiques pour les Noirs américains avec des lois très importantes en 64 et 65. Et donc en 65, il va vraiment mettre le Congrès sous pression et convaincre les sudistes au Congrès de voter pour ces lois pour créer justement un État-providence en tant que tel.
Ce qui est extrêmement intéressant avec ce moment du début des années 60, qui est un moment charnière, effectivement, vous l'avez dit, Laurent Rush, et qui symbolise aussi toutes les tensions qu'il peut y avoir autour de cette notion d'État social ou en tout cas d'aide sociale, c'est qu'au même moment, et j'ai trouvé ça assez intriguant en rapprochant les deux, mais au même moment, et c'est tout l'objet de votre ouvrage, Tamara Boussac, en juin 1961, donc quelques années à peine avant l'arrivée au pouvoir de Lyndon Johnson, puis son élection en 64, la municipalité de New York adopte une réforme drastique du système d'assistance sociale. Le montant des allocations et les conditions d'éligibilité sont revues à la baisse. Et en janvier 1962, Joseph McDowell Mitchell, l'administrateur de Newburgh, la petite ville de l'État de New York, qui est aussi dans le titre de votre ouvrage, élève la voix dans un documentaire qui va faire date, The Battle of Newburgh.
We challenge the right of a welfare program to contribute to the rise of slums, to the rise of illegitimacy, to the rise of social diseases among children and adults. We challenge the right of moral chiselers and loafers to squat on the relief rolls forever. We challenge the right of freeloaders to make more on relief than when working.
Nous contestons le droit des programmes sociaux de contribuer à l'augmentation des taudis en ville, à l'augmentation des naissances hors mariage, à l'augmentation des maladies sociales chez les enfants et les adultes. Nous contestons le droit des tricheurs immoraux et des paresseux assistés de vampiriser l'assistance sociale à jamais. Nous contestons le droit des profiteurs à toucher plus d'argent grâce aux aides sociales que s'ils travaillaient. On retrouve encore une fois cette rhétorique de la triche, de la fraude, Tamara Boussac, mais c'est très étonnant. On s'est quitté en 1935 où les programmes d'aide sociale étaient plutôt bien acceptés. On va voir qu'en au début des années 60, au niveau fédéral, incarné par un président américain, elles sont mises en place à très large échelle. Et pourtant, il y a cette contestation très forte au niveau local. Comment l'exprimer ? Qu'est-ce qui monte comme petite musique à ce moment-là ?
Oui, en fait, ce qui monte comme petite musique à ce moment-là, donc dès les années d'après-guerre, et notamment dans les années 50, ce sont des angoisses, et des stéréotypes aussi très très puissants et vraiment très ancrés sur la fraude notamment et sur l'idée que si de plus en plus de personnes touchent les programmes dans les années 50 malgré la croissance économique, malgré le fait que le chômage est résiduel finalement dans les années 50, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui fraudent le système. Donc effectivement, ça peut être en multipliant alors fraude ou abus, parce que c'est pas forcément
profiteur, oui,
c'est l'idée de profiter, donc soit de tordre les règles, soit de les connaître tellement bien qu'on peut les utiliser un peu comme on veut. Donc typiquement, et ça va être l'un des grands leitmotifs de Ronald Reagan, ça va être d'accuser les femmes noires de multiplier les naissances hors mariage pour toucher de plus en plus d'allocations, par exemple. Ou alors de se faire passer pour quelqu'un d'autre, ou alors d'essayer de toucher l'allocation pour femmes seules, alors qu'en fait on est mariée. Et donc ça, c'est quelque chose qui de plus en plus va vraiment être entendu au niveau local. Donc pour beaucoup d'élus locaux, c'est vraiment quelque chose qui va être assez centrale dès la fin des années 50. Et en fait, tout ça se fait aussi dans un contexte très particulier qui est le contexte de la grande migration des Africains-Américains du sud du pays vers le nord. Enfin, on appelle ça même la seconde grande migration après la Seconde Guerre mondiale notamment, où de plus en plus, effectivement, d'Africains-Américains vont quitter le sud ségrégationniste, vont fuir les violences raciales pour s'installer dans des villes industrielles du nord, donc Chicago, Détroit, New York, par exemple, pour trouver des emplois industriels mieux payés que ceux qui peuvent exister dans le Sud, et aussi voilà, pour fuir les violences raciales qui existent à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va aussi être regardé avec beaucoup de méfiance par beaucoup d'élus locaux dans le nord du pays. La ville de Newburgh, effectivement, sur laquelle j'ai travaillé, elle est dans l'État de New York, donc effectivement, elle correspond un petit peu à ce type de ville, et c'est une ville où la population noire va être multipliée par 3 dans les années 50, et en fait, va se mettre en place un discours fondamentalement raciste, effectivement, sur les Noirs qui viendraient s'installer dans les villes du nord des États-Unis pour profiter des aides sociales. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est ce qu'on entendait, en fait, dans l'extrait que vous diffusiez tout à l'heure.
Et de fait, il y a cette échelle locale qui est très importante, et dont le symbole peut être cette ville de Newburgh, mais très rapidement, ce discours, il ne se limite pas à ce contexte très, très local, et c'est là où les enjeux d'échelle sont importants aussi, dès lors que l'on parle de ces politiques politique sociale de cette fameuse municipalité de Newburgh. L'affaire remonte donc au fameux gouverneur de l'État de New York qui crée en août 1961 par décret la commission Morland sur l'assistance sociale. Or, il faut aussi avoir en tête que Nelson Rockefeller, de fait, vise à cette époque-là les élections présidentielles de 1964. Mais là, Tamara Boussac, est-ce que c'est populaire à ce moment-là de se dire « je vais miser, je vais construire mon discours politique justement sur cette rhétorique de la fraude, de l'idée de profiteur et dans ce contexte racial très, très tendu, vous l'avez dit. Est-ce que à ce moment-là, c'est une idée populaire ?»
Alors, il y a quand même des subtilités, hein, parce que alors le projet de Newburgh, typiquement, hein, il va être très largement discrédité dans l'opinion publique, dans les tribunaux également, dans la presse progressivement. Néanmoins, va quand même émerger l'idée que les programmes sociaux posent problème. Ils posent problème parce qu'ils sont devenus extrêmement compliqués. Et ça, c'est ce que l'extrait de Reagan hein, que vous diffusez tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Hein, l'idée, on ne sait pas combien il y a de programmes, on ne sait pas vraiment qui les touche, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc vraiment, l'idée qu'il y a une vraie opacité au sein du système et qu'il faut réformer l'aide sociale. Et en fait, alors effectivement, on parlait de Kennedy. Hein, dès 1962, Kennedy va réformer l'aide sociale hein, et notamment donc ce programme qui va être baptisé Aid to Families with Dependent Children, avec pour ambition de reconstituer les familles. Donc effectivement, il faut que l'aide sociale serve à consolider les familles biparentales. Donc voilà, l'idée que c'est plus seulement pour les parents esseulés avec leurs enfants. Enfin, vraiment, il y a une idéologie familialiste aussi très importante dans ce volet-là. Un volet aussi sur la lutte sur les fraudes, par exemple. Un autre volet sur la question du travail. Donc les pauvres vont être de plus en plus incités. Enfin, en tout cas, les collectivités locales au sein des États vont avoir la possibilité de demander aux pauvres de travailler en contrepartie de leur aide sociale. Donc ça, oui, en fait. C'est pas forcément, typiquement, les démocrates vont pas forcément mobiliser à cette époque-là un discours raciste pour dire qu'il faut réformer l'aide sociale. Néanmoins, il y a un vrai constat que l'opinion publique est fondamentalement défavorable à la poursuite des programmes de 1935 tels qu'ils existent encore en 1960, parce qu'ils seraient tout simplement devenus inadaptés, en fait, hein, et qu'il y aurait trop d'abus, trop de fraudes. Et donc l'idée d'une réforme nécessaire, elle existe dès 1960. En fait.
Et de fait, c'est cette idée de réforme qui prévaut, alors avec cette idée parfois de remise en cause qui est quand même beaucoup plus forte. Et vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, Tamara Boussac, le welfare state est d'abord contesté à l'échelle locale. Mais le début des années 60, on l'a dit, est marqué par l'arrivée au pouvoir en 1963 de Lyndon Johnson après l'assassinat du démocrate John Kennedy le 22 novembre 63. Or, ce fameux mandat de Johnson est marqué par l'ambition de partir en guerre, nous l'avons dit, contre la pauvreté. Une ambition qu'il exprime lors de son discours sur l'état de l'Union le 8 janvier 1964.
Cette administration déclare aujourd'hui, ici et maintenant, la guerre inconditionnelle à la pauvreté en Amérique. J'appelle le Congrès et toute l'Amérique à me rejoindre dans cet effort. Cela ne sera pas une lutte brève, ni une lutte simple. Aucune arme ou stratégie unique ne suffira. Mais nous ne nous reposerons pas tant que cette guerre n'aura pas été gagnée. La nation la plus riche du monde peut se permettre de la gagner. Elle ne peut pas se permettre de la perdre. $1,000 investis aujourd'hui pour sauver un jeune chômeur peuvent en produire 40 000 ou plus sur toute sa vie. La pauvreté est un problème national qui demande une organisation et un soutien nationaux. Mais cette offensive, pour être efficace, doit aussi être organisée au niveau de l'État et au niveau local. Elle doit être soutenue par des efforts locaux, car la guerre contre la pauvreté ne sera pas gagnée ici à Washington. Elle doit être gagnée sur le terrain, dans chaque domicile, dans chaque administration, du palais de justice à la Maison-Blanche.
Laurent Rush, vous l'avez dit, l'arrivée au pouvoir de Lyndon Johnson est un tournant pour l'évolution du welfare state et notamment tel qu'on l'entend aujourd'hui. Vous l'avez dit, il y a Medicare et Medicaid qui sont mis en place. Mais alors là, il faut nous expliquer, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de contradiction? Est-ce qu'il y a un décalage à ce moment-là, ou en tout cas est-il ressenti comme tel, entre ce qui se passe à l'échelon local avec la montée d'une contestation assez forte et l'idée d'une réforme assez prégnante, et cette idée de poursuivre ce programme-là, voire même de l'approfondir à l'échelle nationale?
Il y a il y a un paradoxe effectivement entre des réalités de terrain, des réalités locales et les réalités nationales avec l'élection, enfin l'arrivée au pouvoir de Lyndon Johnson qui va avoir pendant 5 ans, puisqu'il va être élu de façon éclatante en 1964, il va pouvoir mettre en place ce programme qui va s'appeler la Grande Société. Donc ce qui permet en 62 aux Américains de se réveiller un petit peu par rapport à cette question de la pauvreté aux États-Unis, c'est un ouvrage fondateur, un ouvrage essentiel de Michael Harrington qui s'intitule The Other America, publié donc en 62, L'autre Amérique, et qui met en lumière la pauvreté cachée aux États-Unis à une époque où le pays connaît une prospérité économique post-Seconde Guerre mondiale étonnante. Et il estime qu'environ 25% des Américains vivent dans la misère, bien que cette réalité soit souvent ignorée par la classe moyenne et les élites politiques. Et donc, il, dans son ouvrage, il décrit cette pauvreté invisible concentrée dans des zones rurales reculées, dans les Appalaches, dans le sud profond par exemple. Il met aussi en exergue le cercle vicieux de la pauvreté, que ce sont des générations entières qui vivent dans la pauvreté et qui transmettent cette pauvreté à leurs enfants, et il met aussi en exergue la dimension raciale du phénomène. Donc il rend la question de la pauvreté un peu plus accessible pour le grand public, ce qui va être l'occasion pour Johnson, une fois au pouvoir en 63, de réfléchir à cette mise en place d'une guerre contre la pauvreté. Et effectivement, il va lutter sur beaucoup de fronts. L'éducation, il va lutter contre l'analphabétisme en augmentant l'accès à l'éducation. Il va lutter pour la santé, on a parlé de Medicaid, Medicare tout à l'heure. Il va lutter aussi pour créer des opportunités d'emploi pour le plus grand nombre, et notamment pour les personnes qui sont en bas de l'échelle sociale. Et il va avoir une politique du logement social très très forte aussi. Donc effectivement, Johnson, c'est le président qui va vraiment essayer de rendre cette Amérique meilleure, c'était son souhait, avec bien sûr des opposants, des oppositions, parce que au cœur de l'âme américaine, il y a cette idée que l'État n'a pas à remplacer l'individu et que tout est centré sur l'individu. Et donc c'est ça qui va être difficile. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette politique-là des années 65, 66, 67 qui va créer ce retour de bâton un peu plus tard dans les années 80 et jusqu'à aujourd'hui.
Et de fait, en 1967, on retrouve Ronald Reagan, toujours gouverneur de la Californie, mais qui porte exactement le discours que vous évoquez à l'instant, Laurent Rush.
À l'époque de la dépression, lorsque la pauvreté était si grande, nous éprouvions de la compassion et nous avions la responsabilité de tendre une main secourable à ceux qui, sans que ce soit de leur faute, ne pouvaient pas trouver de travail. Nous ressentons toujours cette compassion et nous sommes toujours prêts à accepter cette responsabilité. Mais à l'époque, notre approche consistait à les aider à céder eux-mêmes. Et c'est tout ce que veulent la plupart des gens. Un coup de main, quand ils en ont besoin, jusqu'à ce qu'ils puissent se remettre sur pied. Mais quelque chose a mal tourné. Ce qui devait être des remèdes temporaires à une maladie temporaire, la dépression, est devenu un mode de vie permanent pour un nombre toujours croissant de personnes. Certains bénéficiaires de l'aide sociale sont aujourd'hui la troisième génération de leur famille à vivre de l'aide publique. Le gouvernement n'est pas en mesure d'expliquer le pourquoi de cette situation. Pourquoi, en cette période de prospérité, le fardeau de l'aide sociale est 10 fois plus lourd qu'à l'époque sombre de la dépression? Et le gouvernement ne fait que perpétuer sa dégradation en institutionnalisant la pauvreté pour des millions de personnes. Je pense qu'il est temps de se rendre à l'évidence. L'aide sociale, telle que nous la connaissons en Amérique, est un échec colossal et presque total, une voie sans issue. C'est une voie sans issue et non une main tendue vers une vie de respect de soi et d'indépendance. J'entends déjà les voix qui s'élèvent. Tous ces républicains placent l'argent au-dessus des droits de l'homme. Eh bien, répondons-leur que nous dépenserons tout ce qui est nécessaire pour sauver l'être humain.
Tamara Boussac, ce discours de 1967 peut-il être interprété par, comme le fait que finalement, effectivement, le discours qui est émané de l'échelon local finit par s'imposer à l'échelle nationale? Il faut quand même rappeler qu'en 1981, Ronald Reagan arrive au pouvoir de fait, notamment porté par ce discours. Finalement, le décalage dont on parlait à l'instant finit par se résorber.
Oui, en fait, on voit très bien hein, que le discours qui peut sembler relativement marginal en fait de critique de l'aide sociale au début des années 60, en fait, a vraiment pignon sur rue à la fin des années 60. Donc là, on entendait Reagan qui, à l'époque, était encore élu local, si on peut dire, enfin bon, quand même gouverneur de Californie, mais surtout en 1968, lorsque Richard Nixon va être élu président des États-Unis, l'un des fondements vraiment de sa campagne, ça va être d'attaquer frontalement, très violemment, la guerre contre la pauvreté de Lyndon Johnson. Avec exactement les arguments qu'on a déjà entendus, hein, l'idée que... et alors, en plus, ça se fait sur un contexte où de nombreuses villes des États-Unis sont traversées par des émeutes raciales à l'été 1967, par exemple. Et donc, avec l'idée que ces programmes sociaux, finalement, les bénéficiaires n'ont répondu... Enfin, n'ont pas vraiment remercié la société américaine, mais en fait, y ont répondu avec violence et dégradation. Et en fait, ça va être central dans l'argument de Richard Nixon, et c'est en partie, alors pas seulement, mais enfin, bon, voilà, c'est ce qui va vraiment le mettre en bonne posture pour remporter la primaire républicaine, par exemple. Donc ça, oui, c'est vraiment, il y a vraiment un renversement en fait hein, du discours dominant au cours des années 60.
Et Tamara Boussac, au-delà des effets de discours et de rhétorique, est-ce qu'avec le recul de l'histoire, on peut effectivement mesurer l'efficacité tout de même de ces mesures d'aide sociale? Est-ce que cela a permis dans les années 70 jusqu'au début des années 80 de réellement réduire la pauvreté?
Ah, en tout cas, oui, absolument. Hein. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les programmes créés en 1935 ont vraiment apporté un filet de sécurité extrêmement important. Alors, c'est d'autant plus le cas pour le programme de pension fédérale, effectivement, Social Security, qui aujourd'hui encore reste relativement incontesté, en fait, aux États-Unis. Hein. Le président Bush, enfin George W. Bush, avait eu à un moment une velléité de réformer profondément ce programme. Il n'y est pas parvenu. Parce qu'il y a quand même un vrai attachement des Américains à ce programme. C'est également le cas pour Medicare, par exemple. Hein. On se rappelle, par exemple, que pendant le mouvement Tea Party, donc le mouvement Tea Party qui était un mouvement conservateur de réaction contre la présidence Obama et notamment la création de l'Obamacare, il y avait eu des études qui montraient qu'un des arguments des militants du Tea Party, c'était ne touchez pas à Medicare, avec l'idée que les militants n'avaient pas forcément conscience que c'était un programme public. Qui était financé par l'État fédéral et qui avait peur en fait que l'État fédéral interfère avec leurs programmes sociaux, avec ce à quoi eux ils avaient droit. Donc il y a quand même un vrai attachement à tout un tas de programmes et notamment pour les personnes âgées. Donc oui, hein, il y a une vraie efficacité quand même de ces dispositifs.
Et de fait, c'est vrai qu'on n'entend pas très clairement, en tout cas dans la bouche encore aujourd'hui de Donald Trump, une remise en cause réelle et sérieuse, notamment de Medicaid, même si ça fait partie des grandes inquiétudes, notamment au Sénat, de voir ce budget raboté très largement. Mais en tout cas, ce n'est pas présent dans le discours, ce qui en dit long aussi sur cette forme d'attachement parmi la population. Laurent Rush, cette période du début des années 80 et donc de l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan est intéressante parce qu'elle nous dit aussi quelque chose de la façon dont on entend employer l'argent à ce moment-là. Si on veut libérer, entre guillemets, l'argent, notamment des aides sociales, c'est pour en faire quoi? Quelles sont les nouvelles priorités à ce moment-là?
Alors, la priorité de l'administration Reagan est très similaire à la priorité de l'administration Trump actuellement, c'est réduire les impôts. Donc, il va y avoir toute une politique de réduction des impôts, surtout pour les sociétés, surtout pour les plus riches. C'est ce qu'on retrouve actuellement, hein, c'est un programme conservateur typique. Et donc, cette réduction des impôts, il va bien falloir réduire des projets, des politiques. Et donc, c'est les politiques sociales qui, justement, ont été victimes de ce dénigrement depuis des années et des années, qui vont faire les frais de cette nouvelle orientation de Ronald Reagan. Et donc, il va dire et marteler pendant la campagne de 1980 le problème, c'est pas la solution à vos problèmes, c'est pas l'État. L'État, c'est le problème, en fait. Et donc, il va marteler ça sans arrêt pendant des années. Il va dire, en fait, tous les problèmes de la société viennent de l'État. Et donc, il faut réduire l'État, il faut démanteler l'État. Et il va commencer ce démantèlement de l'État par l'État-providence, justement. Et ce que Trump essaye de faire maintenant, c'est de finir le geste en démantelant quasiment tout l'État, enfin, l'essentiel de l'État. Le reste, hein, on parlait tout à l'heure du ministère de l'Éducation, mais en fait, cette volonté de détruire l'État, elle a commencé avec Ronald Reagan et avec l'État social, hein, avec le démantèlement de l'État-providence, ou de ce qui existait de l'État-providence, parce qu'encore une fois, je pense qu'on peut y mettre des guillemets par rapport à nos États-providence au Canada ou en Europe, parce qu'il y a aussi le Canada qui est un cas intéressant à étudier.
Et qui se situe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Laurent Roche, il y a peut-être un autre parallèle aussi qu'on peut tirer. Il y a une tribune parue dans le Guardian le 5 mars dernier qui mettait en garde pendant que nos yeux sont braqués sur la destruction du welfare state. Trump est en train de construire un police state, un état policier, notamment en raison de la reconfiguration du rôle du FBI, mais aussi des millions investis dans la défense et dans le contrôle des frontières. Là aussi, il y a une forme d'héritage entre Reagan et Trump, et puis c'est entre ces années 80 et ces années 2020 que nous connaissons actuellement. C'est une réallocation du budget très, très politique également.
Oui. Alors ça, cette idée de contrôler les personnes, hein, c'est ce que j'appelle le contrôle social, ce qu'on appelle le contrôle social, c'est quelque chose qui a démarré à peu près dans les années 70, donc c'est à peu près à la même période, années 70-80, avec une volonté de lutter contre la délinquance. L'insécurité va devenir un des thèmes majeurs des campagnes. Ça va commencer en 64, donc vous voyez qu'on est dans la même temporalité que pour l'aide sociale. Et donc, c'est ce qu'on va voir arriver très très vite dans les années 80, l'avènement de ce que j'appelle l'état carcéral, hein, l'état pénal, c'est-à-dire un État aux États-Unis, une notion complexe d'ailleurs, hein, qui renvoie à la manière dont le système pénitentiaire est structuré et utilisé pour exercer un contrôle social, économique et racial. Et donc, la volonté des républicains de l'époque, c'est de remplacer l'aide sociale par un contrôle social sécuritaire, avec une politique massive d'incarcération des Américains qui dealent de la drogue, qui commettent des infractions mineures. Et donc, on va avoir jusqu'à 2,3 millions d'Américains incarcérés en 2018, qui est l'année où il y a le plus grand nombre d'incarcérés aux États-Unis. Et donc, cet État-providence doit, à mon avis, être analysé en parallèle avec cet État carcéral et donc cette politique de mise à l'écart de certains Américains.
On le voit, c'est un discours politiquement très construit. On a beaucoup, beaucoup parlé de rhétorique, de discours, de ressenti aussi auprès de la population. Mais toutes ces idées, et notamment qui infusent sous l'administration Reagan, ne viennent pas de nulle part. Elles sont aussi théorisées, elles sont aussi portées par un discours économique et donc par certains économistes, au premier rang desquels on trouve Milton Friedman, qui s'exprimait lors d'une conférence à l'université de Rochester en 1978.
Les objectifs de la promotion du bien-être de l'Américain ordinaire, de l'élimination de la pauvreté et de la maladie, de l'assurance face à la vieillesse et face aux aléas de l'existence, ce sont des objectifs nobles. Je ne crois pas que quiconque pourrait les considérer comme indésirables. Mais comment se fait-il que la tentative d'atteindre des objectifs aussi nobles par l'appareil gouvernemental tende à produire des résultats si décevants ? Selon moi, la réponse est très simple. Utiliser le gouvernement pour accomplir ses buts revient à essayer de faire le bien avec l'argent de quelqu'un d'autre. Et lorsque l'on essaie de faire le bien avec l'argent d'un autre, il y a deux écueils. Le premier, c'est que personne ne dépense l'argent d'un autre aussi précautionneusement qu'il ne dépenserait son propre argent. C'est ce qui va produire du gâchis et une catastrophe fiscale. Et le deuxième, c'est qu'on ne peut pas faire le bien avec l'argent d'un autre sans lui dérober en premier lieu. Dans ce cas, la force, la contrainte, le fait d'envoyer un policier pour faire les poches des autres se trouve au cœur de la notion de welfare state. Et la situation devient alors telle que les mauvais moyens corrompent les bonnes intentions.
Tamara Boussac, le discours anti, si on peut le nommer ainsi, le discours anti-welfare state n'est pas qu'un enjeu de popularité, de discours qui trouverait preneur auprès de la population, ce n'est pas qu'un discours séduisant, il y a aussi des fondements théoriques. Est-ce que c'est cela qui explique aussi la montée en légitimité et puis l'ancrage de ces idées très fortes? On peut notamment dire qu'au début des années 90, ces idées-là prennent un nouveau tournant aussi. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a ce fondement théorique qui vient, on va dire, justifier aussi la mise en place de ces mouvements de réforme?
Oui, alors en plus, ce qu'on entend bien dans le discours de Friedman, là, c'est que le discours anti-welfare state, c'est un discours anti-fiscal, hein, dans un sens. Hein. Là, c'est une attaque vraiment très explicite sur la contribution publique. Ça, dans le contexte des années 70, notamment, c'est quelque chose qui est très profondément ancré socialement aussi, hein, parce que les années 70, c'est un peu ce qu'on appelle la décennie des révoltes fiscales aux États-Unis, avec beaucoup de manifestations manifestations, on va dire, sociales, des campagnes aussi locales, notamment en Californie, pour limiter l'imposition, notamment la question de la taxe foncière qui est très importante en Californie dans les années 70. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des fonds théoriques. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la mobilisation anti-welfare state et anti-fiscale par ailleurs, elle mobilise vraiment plusieurs segments de la société américaine. Hein. Donc il y a des fondements théoriques. Alors ça vient effectivement de chercheurs, d'économistes par exemple. Ça vient, il y a un ancrage social, il y a un ancrage politique également. Donc oui, c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'une pénétration assez générale hein, dans la société américaine de ces idées et de cette critique de l'État social. Et ce qu'on entend aussi dans le discours de Friedman, c'est que c'est un peu la question de la critique de l'impôt. C'est aussi pour justifier la mise en place ou le retour à une gestion beaucoup plus privée en fait hein, de la pauvreté. En gros, ce que nous dit Friedman là, c'est que c'est pas forcément à l'État de lutter contre la pauvreté. Il faut considérer ces questions-là comme des questions de charité privée en fait, hein, comme si c'était le rôle principalement d'associations caritatives, notamment de venir en aide aux démunis, comme c'était le cas au début du XXe siècle.
Laurent Roche, on dit souvent que 1996 marque la mort de fait du welfare state tel qu'il existait jusqu'ici, et là encore avec des guillemets. Clinton introduit son Welfare Reform Act, alors même que parmi ses promesses de campagne se tenait l'idée d'un Medicare for All. Très concrètement, quelles sont les conséquences de cette réforme introduite par Clinton, Laurent Roche? Et est-ce qu'on peut vraiment parler de mort du welfare state à ce moment-là?
On peut parler d'une, peut-être pas la mort du welfare state, mais en tout cas d'une approche beaucoup plus stricte du welfare state. Hein. Effectivement, donc cette réforme va éliminer l'AFDC, qui était le programme phare qui avait été créé dans les années 30, qui va être remplacé par un programme qui s'appelle Temporary Assistance, assistance temporaire. Et donc le surnom de ce programme va être Workfare. On va parler de Workfare plutôt que de welfare. Et donc en gros, parce qu'il nous reste, je pense, quelques minutes, mais pour résumer en deux mots la philosophie de ce programme qui est toujours en place, hein, qui n'a pas été touché depuis, c'est qu'on ne peut pas toucher l'aide sociale, le welfare, dans une vie, on ne peut pas toucher plus de 5 ans d'aide sociale. Et au bout de 2 ans, donc on peut toucher l'aide sociale pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, on doit absolument prendre un emploi. Si on n'a pas trouvé d'emploi, on doit accepter un emploi social. Et donc on va souvent travailler dans les parcs, on va travailler dans les bureaux, à faire le ménage, souvent à mi-temps, et c'est juste pour maintenir l'aide sociale, c'est-à-dire on n'est pas salarié, on peut pas se syndiquer, mais on va maintenir son aide sociale et devoir accepter un emploi forcé. Et donc jusqu'à ce qu'on trouve un véritable emploi. Et si on ne trouve pas de véritable emploi, au bout de 5 années, donc au bout de 2 ans, on est sorti du système et on peut pas y revenir si on a déjà touché 5 années dans sa vie de ce welfare. Donc c'est vraiment très 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 restrictif.
Et on retrouve cette idée de mériter aussi quelque part ces aides, Tamara Boussac, très rapidement, parce qu'effectivement, cette émission est en train de se terminer. Tamara Boussac, on pourrait se dire que le welfare state n'est pas tout à fait mort, il bouge encore. C'est notamment ce qui avait été avancé en mars 2010 avec l'Obamacare, qu'on a évoqué un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une résurgence de l'état social du welfare state à l'aune de cet Obamacare?
Oui, dans un sens. Hein. Alors, forcément, l'Obamacare, il faut comprendre un peu de quoi on parle. C'est pas du tout la création. Ce n'a pas du tout été la création, voilà, d'un système de sécurité sociale tel qu'on peut le connaître en France, par exemple. Mais néanmoins, voilà, ça a quand même témoigné d'une volonté d'intervention de l'État fédéral dans un domaine où traditionnellement il a été assez peu présent. Donc, effectivement, la question de la santé. Alors, il y avait deux volets importants dans l'Obamacare. Le premier volet, c'était une revalorisation du programme Medicaid, c'est-à-dire du programme de l'assurance santé à destination des personnes démunies. Donc effectivement, faire en sorte que plus de personnes, sous condition de ressources toujours, mais avec des critères un peu plus souples, puissent bénéficier de ce programme. Et le deuxième volet, c'est un volet d'incitation en fait auprès des assurances privées. Donc faire en sorte que les assurances privées ne puissent plus refuser de nouveaux souscripteurs, et assorti aussi d'une obligation individuelle pour tous les Américains de souscrire à une assurance privée, par exemple, notamment hein, dans le domaine de la santé.
I've been waiting for the last 124 days since I got out of the hospital. Waiting for something. Godot? Well, you know what happened in the story of Godot? He never came. And that's what I'm waiting for. Something that'll never come. Equity. Justice. Justice. Under this great democratic society of ours, where everybody is equal under the law, you know. And there's nothing in the middle anymore. You either have it or you don't have it. You know, it's not a matter of middle, you know, there's no middle class anymore. There's just the rich and the poor. And I'm one of the poor.
In fact, destitute, not poor. It's got to change my interest.
J'attends toujours quelque chose. Godot dans l'histoire n'est jamais venu. J'attends quelque chose qui ne viendra jamais. L'équité, la justice dans notre grande société démocratique. Il n'y a désormais plus rien au milieu. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Il n'y a plus de classe moyenne. Il y a les riches et les pauvres. Moi, je suis pauvre. Plus encore, je vis dans la misère. Voilà, c'était un extrait de Welfare, le documentaire de Frédéric Wiseman qui est sorti en 1975 et qui traîne sa caméra justement dans le Welfare Center de Greenwich Village en bas de Manhattan et qui dépeint toutes ces vies qui dépendent notamment de cette aide sociale qui n'est plus distribuée. Merci infiniment à tous les deux, Laurent Roche et Tamara Boussac, d'avoir participé à cette émission.